Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Nuit, André S. Labarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Nuits de France Culture pour une nuit consacrée à André S. Labarthe. Après André Bazin, c'est l'un de ses rejetons, André S. Labarthe, que nous avons voulu saluer en cette période festivalière. Disparu en 2018, par son nom, sa voix, sa dégaine, ses textes et surtout ses films, il était une présence familière à toutes les générations de cinéphiles depuis les années 60. C'est cette présence au cinéma, parfaitement singulière, que nous proposons de retrouver cette nuit. On serait presque tenté de dire qu'André S. Labarthe a été une sorte de cinquième Beatles de la nouvelle vague, un compagnon de route un peu en retrait, dont le travail consista, pour l'essentiel, à faire aimer les œuvres des autres et à interroger inlassablement le cinéma. Mais l'œuvre télévisuelle qu'il a lui-même bâtie, avec Cinéaste de notre temps puis Cinéma de notre temps, aux côtés de Jeanine Bazin, aura fait de lui l'un des héros de ce qui fut peut-être le dernier temps mythologique du cinéma, et finalement, de lui, un cinéaste à part entière de son temps. Au cours de cette nuit, dans laquelle Jeanine Bazin aura une place, nous retrouverons André S. Labarthe, tel qu'en lui-même, libre de paroles et de pensées, volubile et chaleureux. À travers les bandes-sons de ses films, par sa voix et celle de Jean-Claude Dauphin, nous entendrons également l'écrivain qu'il était. Autour des archives de ce programme que nous lui consacrons, nous accompagnerons le réalisateur et critique Jean-Paul Fargier et, pour la deuxième partie de cette nuit, Estelle Fredet, réalisatrice d'Il était une fois André S. Labarthe et co-réalisatrice avec lui de plusieurs films. Qu'aux auditeurs pour lesquels il a compté, cette nuit soit le plaisir de retrouver André S. Labarthe, qu'à ceux qui ne le connaissent pas ou trop peu, elle soit le plaisir de le découvrir.
Les dictées des élèves de papa. Je ne sais pas pourquoi j'y pense.
Tout à coup.
Pourquoi donc ?
Non, hier, il nous en a lu au dîner. Il y en avait des formidables. Tu sais, c'est des gosses. Il fallait décrire les animaux qu'ils aimaient le mieux. Une petite fille de 8 ans avait choisi la poule. Comment c'était ?
La poule est un animal qui se compose de l'extérieur et de l'intérieur. Si on enlève l'extérieur, il reste l'intérieur. Et quand on enlève l'intérieur, alors on voit l'âme.
Jean-Paul Fargier, bonsoir.
Bonsoir, Alban.
Nous venons d'entendre Paul, André S. Labarthe, dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, un film de 1962. Qui était André S. Labarthe pour vous ? Dans l'article de Trafic dans lequel vous avez salué Labarthe après sa disparition l'année dernière, vous parlez d'un ami, mais en spécifiant bien, à la mode celluloïde.
Oui, parce que je l'ai connu longtemps de loin à travers les articles des Cahiers du cinéma et à travers les rôles qu'il jouait dans les films de la Nouvelle Vague. Voilà, et entre autres ce film Vive sa vie où il est le compagnon de Anna Karina, enfin de celle qui va devenir prostituée. Donc il y a cette scène inaugurale formidable où il est filmé de dos. Et d'abord, j'ai connu le dos de Labarthe. Et je sais pas, tous ceux qui admiraient les films nouveaux qui arrivaient de Godard, de Rivette et tout ça. Bon, cette scène de dos était mythique, quoi. Était très emblématique d'une audace de filmer autrement, parce que quand même, on voyait Labarthe dans le miroir en face de lui. On voyait aussi Anna Karina. Qui lui demandait de lui donner de l'argent pour je sais pas quoi, et il refusait. Voilà. Et c'est ça qui la précipitera dans la prostitution. Donc, voilà. J'ai connu Labarthe de dos, j'ai connu Labarthe avec son accent, cet accent du sud-ouest. Moi, j'étais du sud-est, de Nîmes. Voilà. Je pense que j'ai vu, au Ciné-Club, peut-être le film. Je ne l'ai pas vu à sa sortie, je l'ai vu peut-être un an plus tard ou deux ans plus tard à la Anime au Ciné Club, qui était animé par Jean Collet, qui connaît très très bien la Barthe, et qui, Jean Collet, qui venait de Paris tout le temps, tous les mois, nous apprendre à analyser des films. C'est comme ça que je suis devenu cinéphile et plus tard réalisateur. Bon. Donc, je sais que quand je suis arrivé à Paris, avec l'idée que si j'avais de la chance, je ferais peut-être des films, ou que j'écrirais dans des revues, je me rappelais l'accent de la Barthe. Et je me disais, bon, avec l'accent que j'en avais beaucoup plus que maintenant. C'est possible de faire un truc à Paris, quoi. Voilà. Donc, c'était... J'ai mis du temps à le rencontrer vraiment, mais... Voilà. Et je l'ai rencontré plus tard.
Pourquoi ce titre, Jalousie de André S. Z. Labarthe, pour votre article ? Nous parlerons plus tard dans la nuit, si vous voulez bien, du Z que vous accolez à son S. Mais pourquoi Jalousie ?
Parce que, il faut trouver un truc qui dramatise. Je veux dire, j'étais pas vraiment jaloux. Mais pour faire un texte, il faut avoir... C'est comme pour faire un film, il faut manipuler le réel. Ça lui plairait à Labarthe. Puisqu'il dit, les choses sont là. Pour qu'elles apparaissent, il faut les manipuler. Bon. Donc, j'ai mis en scène une jalousie parce que je voulais parler d'un coup qui m'avait fait et qui relevait peut-être de la jalousie. Voilà. Qui était qu'un jour, j'avais proposé à Jeannine Bazin, que je connaissais d'abord avant lui et mieux que lui pendant longtemps, et de faire un film sur Jean-Daniel Paulet. Et ils avaient accepté, et puis Paulet était très content. Et puis un jour, Paulet me dit, mais tu sais, la Barthe est passée, et il m'a dit qu'il voulait faire le film, lui. Et Paulet avait refusé, voilà. Et d'habitude, quand je racontais cette anecdote, c'était plutôt pour parler de la fidélité de Paulet, de l'amitié que j'avais avec Jean-Daniel Paulet, bon. Puis là, ça m'est revenu et je l'ai un peu tiré du côté de la jalousie de Labarthe. Et du coup, il fallait qu'il y ait ma jalousie à moi pour qu'il n'y ait pas qu'un truc qui... Parce que c'est une jalousie aussi tout à fait compréhensible. Parce que vouloir faire un film sur un grand cinéaste qu'on admire, on se bat un peu, quoi.
Voilà. Est-ce que c'était pas aussi une jalousie de génération, peut-être ?
Non, bon, moi je suis un... Je ne suis pas tout à fait la même génération que lui, il est plus jeune. Je suis plus jeune, il est plus jeune, par tout ce qu'il a fait, on pourrait dire aussi.
Vous concernant, de la part de Labarthe, vous parlez donc de cette petite entorse, ou de cette jalousie en raison de ce film sur Jean-Daniel Paulet, mais vous parlez aussi d'une série de coups de pouce.
Oui, parce que par rapport à L'Origine du Monde, je me rappelle. Enfin, on avait parfois des centres de passion communes. Voilà. Paulet, par exemple. Bon. Ça aurait pu être Godard. Et là, j'ai fait quelque chose sur L'Origine du Monde, lui aussi, avec Jacques Henrich. Je ne sais pas comment dire, coup de pouce, mais en même temps... De temps en temps, il demandait à voir mes films. Voilà. Donc, je lui portais, et à ce moment-là, je restais avec lui pendant 2 heures, 3 heures, chez lui, et on discutait, on buvait du whisky. Voilà.
L'éternel gitan maïs, whisky, le costume, le chapeau. Labarthe, c'était une manière d'apparaître, un personnage qui s'est dessiné avec le temps et qui n'a pas toujours été. Par exemple, vous souvenez-vous, quand le chapeau est-il apparu ? La question peut paraître insignifiante, mais savoir à quel moment du cinéma et de la télévision il arrive n'est peut-être pas sans intérêt, Jean-Paul Fargier.
Alors, le chapeau... Non,
le fameux chapeau d'André Labarthe.
Le fameux chapeau d'André Labarthe. Après, il était... Je sais pas où... Non, je pourrais pas le dire. Il faut que des gens fassent des recherches. Mais par rapport à ce chapeau, je peux dire quelque chose parce que... Bon, il y a plusieurs artistes qui se sont signalés par leur chapeau. Il y a un peintre français. Mais il y a aussi Beuys. Et il parle jamais de Beuys, à ma connaissance, Labarthe. Mais Le chapeau de Beuys a fait l'objet d'une interrogation par un artiste sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Nam June Paik, le fondateur de l'art vidéo, et qui était très proche de Beuys. Et dans le film que j'ai fait sur Nam June Paik pour Canal+, en 89, voilà, il veut démontrer d'où vient le chapeau de Beuys. Pour essayer, et je ne pourrais pas faire ça, moi, hein, ce soir, parce que je ne sais pas d'où vient le chapeau de Labarthe, mais il vient peut-être de la même origine. Voilà, alors, il démontre que le chapeau de Beuys vient de Bogart. Et il a même fait des œuvres, Nam June Paik, où on voit Beuys avec son chapeau, et il rapproche dans le même tableau... parce qu'il peint pas, mais il projette des images vidéo qui s'impriment sur de la toile, et donc il met en relation Beuys et Bogart. Il a fait des installations vidéo, etc. Et donc ça vient peut-être de là, voilà.
En tout cas, quand on l'interrogeait, je crois qu'il citait Boris Vian, qu'il avait rencontré, et qui disait de toute façon, on est déguisé, alors autant se déguiser.
Bon, bonne. Explication.
Que signifiait ce S qu'il avait glissé entre son prénom et son nom?
Alors, il s'appelait Sylvain, André Sylvain Labarthe. Alors, de temps en temps, on écrivait André Sylvain Labarthe ou André S. Labarthe. Et quand j'ai écrit ce texte, là, l'année dernière, j'ai tapé le nom de Labarthe sur Wikipédia. Et qu'est-ce qui est arrivé de André Labarthe? Dans un, il avait quasiment plus de paragraphes, de lignes que André S. Parce que c'est un homme politique qui avait été à Londres avec De Gaulle, mais qui était anti-gaulliste. Et après, il a toujours été anti-gaulliste. C'était peut-être un agent secret. On l'a soupçonné d'être un agent de la Russie plus tard, bon, etc. Et donc... Moi, je me suis dit, peut-être, et puis on peut toujours, quand on fait un hommage à quelqu'un, faire un peu de fiction, et s'imaginer qu'il était, tout d'un coup, il arrive à Paris, et puis il voit dans les journaux qu'il y a un André Labarthe. Donc, pour se distinguer, alors là aussi, est-ce que d'où vient le chapeau, à quelle date il apparaît, et le S, à quelle date il apparaît? Et là, je me suis dit, peut-être dans les premiers articles des cahiers, il n'y a pas le S, mais il y est dès le début. Voilà.
On lui a souvent collé une étiquette de dandy, de dilettante, alors qu'il était plutôt très productif.
Oh, il était peut-être dandy par son allure, ses goûts très raffinés dans ses choix littéraires, picturaux, etc. Voilà. Mais c'était vraiment... il travaillait beaucoup. Hein, il a, c'est quelqu'un qui a fait...
on dit au moins 600 films, je crois.
Ouais, 600 films, mais à la télé, on fait des films des fois de 10 minutes. Oui. Mais ça compte, parce que pour travailler un film de 10 minutes, il faut... beaucoup bossé, quand même.
Évidemment, André S. Labarthe est surtout connu comme réalisateur de télévision, mais moins pour ses articles critiques, quand il était à la rédaction des Cahiers du cinéma, où il a beaucoup écrit. Quel genre de critique a été Labarthe au cahier et quelle place y avait-il?
Alors, comme critique, bon, là aussi j'ai relu il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas relu depuis. Alors là. Et donc, Je peux dire que non, on dit j'ai relu, mais souvent quand on dit ça, on n'a pas relu. On vient de découvrir. Et c'est vrai que les articles des Cahiers jaunes, je les ai lus qu'il y a 6 mois quand j'ai fait le texte. Là, ouais. Donc, mais j'ai vu ces articles sur Buñuel, sur Antonioni. Il avait une façon aussi de mettre en avant toujours quelque chose de sexuel dans ses analyses, à la différence des autres critiques des Cahiers. Qui n'était pas forcément influencé par le surréalisme, il y avait des références à des auteurs que les autres critiques ne prenaient pas comme guides, voilà, donc Breton, ou, voilà. Mais il avait une façon aussi de toujours mettre en relation un film avec des choses inattendues qui n'étaient pas dans le film, et puis après ça. Il y avait un entonnoir comme ça à la fin et tout se renouait.
Labarthe n'a pas livré grand-chose de son histoire personnelle, de son enfance, de sa famille. On sait qu'il était né en 31 à Oloron-Sainte-Marie, qu'il avait fait des études classiques chez les jésuites en Dordogne et ensuite une licence de philosophie à Paris, qu'il avait fréquenté assidûment les cinémas, les galeries, la cinémathèque, les ciné-clubs, où il rencontra Bazin, Godard, Truffaut, Rivette, qu'il avait commencé comme critique dans les années 50 à Radio Cinéma Télévision, qui n'était pas encore Télérama, avant de rejoindre en 56 les Cahiers du cinéma. Jean-Paul Fargier, doit-on considérer avant tout Labarthe comme un héritier direct d'André Bazin ? Bazin a-t-il été l'influence majeure de son histoire avec le cinéma ?
Je crois que c'est vraiment un des très grands basiniens, quoi. Quand il travaillait à Radio Cinéma, à Radio Télé Cinéma, Bazin y écrivait aussi. Il a rejoint très vite l'équipe des Cahiers, donc moi je connais pas ça. Là je viens d'apprendre qu'il était chez les jésuites, par exemple, dans ce que vous venez de dire. Et l'autre jour j'ai appris par Estelle Fraudet qui va nous rejoindre tout à l'heure qu'il s'est marié très jeune pendant son service militaire et qu'il a eu un enfant. Voilà. Et donc je savais pas ça, parce que dans mon article je me dis mais on ne sait pas grand-chose de ce qu'il a fait avant son premier article dans les Cahiers. Bon, sauf si on se met à... Il n'y a pas de biographie de lui. Vous avez trouvé ces informations, je ne sais pas où, mais...
Dans des émissions de radio.
Dans des émissions radio où il le dit lui-même.
Oui.
Il parle des jésuites.
Oui.
Ah, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai été...
Il dit que s'il n'était pas passé chez les jésuites, il n'aurait certainement pas été qui il a été.
Oui, moi aussi. Si je n'étais pas passé dans le... au séminaire où il y avait des curés, mes profs étaient fous de cinéma. Ils m'ont fait lire les Cahiers quand j'avais 15 ans. Voilà. Merci à l'église de cette époque.
Contrairement à ceux de la Nouvelle Vague, à ceux qu'il avait fréquentés dans les ciné-clubs et à la cinémathèque et retrouvés aux Cahiers du cinéma, Labarthe n'a pas été un accro total, un fou de cinéma.
Il a fait beaucoup de films sur la peinture, moi aussi, enfin bon.
Sur la danse
Sur la danse. Donc c'était pas que le cinéma. Il connaissait tous les arts. Hein, voilà. Et puis, il a lui-même après pratiqué, il est devenu plasticien. Et je crois que, bon, je l'ai un peu sous-estimé comme plasticien. Je pense qu'il faisait ça pour s'amuser. Et quand on voit le film, je grille un peu peut-être la prochaine interview, là, mais d'Estelle sur lui,
on en parlera tout à l'heure.
Beaucoup, oui. À quel point, oui, c'était important pour lui, ses créations. Mais bon, moi, je pourrais dire quelque chose aussi, parce que la relation était dans la suite du Ready-Made, pour une part. Et le Ready-Made, c'est faire des films sans caméra. C'est ramener le réel comme ça, mais voilà.
Qui sont les cinéastes privilégiés par Labarthe ?
Moi, je pense qu'il y a Buñuel, et d'ailleurs, je crois que le premier film portrait là de cinéaste de notre temps, c'est Buñuel, et il y a Antonioni, il y a Godard, enfin il y a Rivette. Rivette, il est très fort sur Rivette, sur les Japonais aussi.
Moi, personnellement, j'ai toujours fait des films extrêmement influencés par à part Abouchou, le premier, influencé uniquement par le dehors. Et sans le dehors, j'aurais aucune idée. Mais c'est le cinéma qui m'a fait découvrir la vie qu'avaient les gens, qu'avait le monde. Et alors, plus on fait de films, plus on découvre... Là, j'ai l'impression d'être passé comme dans... Enfin, le cinéma, c'était le miroir, comme dans les films de Cocteau. Et puis, on a traversé le miroir. Alors, on peut... une fois qu'on l'a traversé, on peut toujours regarder en arrière. Le miroir est toujours là, mais vu d'une autre... Il apparaît comme une fenêtre, peut-être, à ce moment-là, plus comme un miroir.
En 1965, Jean-Luc Godard parlait de son film Le Petit Soldat avec Andréas Labarthe dans Cinéaste de notre temps. En 1959, Labarthe signait dans Télévision Radio Cinéma, donc l'ancêtre de Télérama, un long article titré « La nouvelle vague n'existe pas, mais ses films bouleversent le cinéma », dans lequel il exposait que le nouveau cinéma français qui émergeait alors était un cinéma d'individualité, qu'il ne pouvait en aucun cas être vu comme une école. C'était avant la sortie d'À bout de souffle et Labarthe apparaissait alors comme un porte-parole fidèle de la nouvelle vague, quelqu'un qui avait compris précisément ce qui était en train de se passer. Qu'a été Labarthe pour la nouvelle vague? Un compagnon de route ou plus que cela? Je disais une sorte de cinquième Beatles.
Oui, c'est drôle. Il a été l'ami de tous les cinéastes parce que c'était un interlocuteur d'une telle intelligence que chaque cinéaste pouvait parler avec lui au plus profond de ce qu'il avait voulu faire dans tel ou tel film. Voilà. C'est pourquoi on voit avec Godard. Là, bon. Mais il était comme ça, proche de tout le monde. C'était une intelligence du cinéma. Voilà. C'est pas un intellectuel, une intelligence, une lucidité des choses. Il voit des détails, il fait des rapprochements incroyables. Voilà. Donc je pense qu'il a été proche de tous comme ça, parce que c'était un compagnon de pensée.
A-t-il véritablement eu l'ambition de devenir cinéaste comme les autres le sont devenus? Il semble avoir traversé cette époque davantage en témoin qu'en acteur, Jean-Paul Fargy.
Alors moi, je pense que finalement, il s'en foutait de faire des films. Et que, bon, il les faisait parce qu'on lui proposait, il a attrapé toutes les opportunités d'en faire. Mais je trouve que la chose la plus importante, c'est que il s'en foutait de faire des films. Il en a fait 400, donc à la limite, on peut dire que les uns annulent les autres, etc. Mais ce dont il se moquait pas, c'est de faire du cinéma. Et il faisait, je dirais, du cinéma tout le temps. Il était tout le temps en train de faire du cinéma, de filmer, même quand le film n'aboutit pas. Quand il lit un texte, comme ça, à haute voix, aussitôt, il imagine comment on pourrait adapter ce texte ou ne pas l'adapter parce que c'est impossible de l'adapter. Mais une fois qu'il a fait cette démonstration de lecture et d'impossibilité d'adaptation, le film est fait. Il a filmé, il n'y aura pas de film, mais c'est un film. Voilà, il avait à tout moment des idées de film. Et puis, de temps en temps, il en réalisait quelques-uns, parce que aussi on lui commandait à la télé, c'est beaucoup des commandes, est-ce que vous voulez faire ça, tel magazine, il faut faire ça, bon, j'y vais, etc. Et à chaque fois, c'était original, parce qu'à chaque fois, il cherchait comment ne pas faire ce qu'on avait déjà fait.
En 1964, créé par Jeannine Bazin, c'est le début à la télévision d'une émission qui allait devenir mythique, comme on dit, cinéaste de notre temps. On peut dire que c'est là que Labarthe est devenue Labarthe. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, comment présenter cette émission? C'était quoi, cinéaste de notre temps?
Alors, cinéaste de notre temps, c'était des entretiens. C'était des entretiens avec des cinéastes, soit Renoir, soit, je sais pas, Cazavetes, Capra, etc. Ils partaient aux États-Unis et ils se disaient, on va aller voir. Ils avaient peut-être un rendez-vous, puis après, ils revenaient avec trois films. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des rushs qui ont jamais été montés. Ils ont tellement fait d'interviews. Mais après, ça a évolué parce que ça devenait aussi l'occasion pour un cinéaste de faire un film sur d'autres cinéastes. Et il y avait une sorte de carte blanche d'écriture. Et donc, on connaît le Renoir par Rivette. Puis il y avait une grande latitude. On veut faire un film d'une heure, mais on en fait trois d'une heure, finalement. C'est le cas de Rivette, etc. Ou je me rappelle, le Capra, où ils imaginaient toujours... C'était l'époque du cinéma direct. Il tournait en 16, c'est pas la vidéo, c'est un peu un ancêtre de la vidéo, puisque on avait le son synchrone. Et l'interview de Capra sur son tracteur faisant visiter son immense orangerie, etc., c'est extraordinaire. Il y avait des idées comme ça de mise en scène de la parole. Et donc, il y a beaucoup de situations. Bon, ça peut être un repas, ça peut être un tournage, mais le Capra avec sur son tracteur, c'est extraordinaire. Mais il y a une deuxième partie après, et c'est Labarthe qui parle. Ça m'a beaucoup frappé. Labarthe dans le bureau, sans le bruit comme ça du tracteur. La partie interview comme ça un peu sur le tracteur, qui était quelque chose, un exploit de tournage. S'il y a des journalistes avec Labarthe, lui il est en réserve derrière, de temps en temps il ajoute un mot, mais après il y a un entretien et là ça change tout. Il y a un face à face qui est formidable. Et je me disais, on pourrait même faire un film avec les questions de Labarthe, qui sont toujours très très bien amenées avec des exemples, tac, voilà. Mais et une autre chose importante pour le, c'est comment faire amener des extraits de films. Ça, ils l'ont pas trouvé tout de suite. Et après, ils ont trouvé qu'on pouvait amener des films pendant que les gens parlent. Au début, ils faisaient un peu de parole, un peu de film, puis un peu de parole, un peu de film. Et après, ils ont compris qu'on pouvait tresser tout ça et que on pouvait recouvrir la voix de celui qui parle avec celle d'un acteur qui l'a mis en scène, et etc. Ça, c'est, il a expliqué, Labarthe aussi, comment la citation. Parce que bon, il y avait la citation littéraire, tout ça, mais citer un film, c'est devenu une sorte d'école de l'exercice de la citation.
Est-ce que vous étiez vous-même à cette époque un téléspectateur de cette émission ?
Oui, j'en ai vu beaucoup. J'avais pas la télé, mes parents avaient pas la télé. J'allais les voir chez des amis, mais bon, pour les convaincre, tout ça. Mais j'ai assez vite vu des émissions de voilà.
Vous dites que Labarthe a été l'un des plus fins observateurs de l'impact du direct sur le renouvellement du cinéma. Quel a été cet impact du direct qu'avait dans sa nature la télévision, dont la rencontre Rivette-Renoir, même s'il ne s'agissait pas au sens strict d'une émission en direct, peut être exemplaire?
Alors, l'impact de la télévision sur le cinéma, alors là, c'est un... Il faudrait faire une grande émission. Parce que très vite, les cinéastes se sont aperçus qu'il y avait à côté d'eux une machine qui produisait des images tous les jours et qui changeait la façon de parler, la façon même des acteurs de s'exprimer, etc. Donc, beaucoup de la nouvelle vague vient de là. La nouvelle vague vient des caméras directes, du cinéma direct, Jean Rouch, Lycock, etc. Et vient la nouvelle vague vient aussi d'une observation de la télé. Truffaut, aujourd'hui, quand on parle de la télé chez les cinéastes, c'est pour dire que c'est de la connerie, la télé, c'est une sous-merde, etc. C'est très méprisant. Très peu de cinéastes, même aujourd'hui, parlent positivement de la télé. Si vous relisez les premiers articles de Truffaut, eh bien, il y a des éloges de la télé en permanence, quoi, de formes découvertes à la télé. Et les 400 coups, peu de gens le savent, mais il est allé chercher un scénariste de télévision pour faire les 400 coups. Il s'appelle Marcel Moussy, qui était aussi un metteur en scène de théâtre, mais qui faisait des dramatiques télé avec des personnages réels. Et donc, la notion de vérité a changé. C'est la nouvelle vague, quand Truffaut se moque des scénaristes de la qualité française, ben, on pourrait dire qu'il s'inspire de ce qu'il voit à la télé, qu'il y a un nouveau naturalisme.
Rivette et Godard sont les deux de la nouvelle vague dont Labarthe a été le plus proche. On le retrouve d'ailleurs souvent devant leur caméra comme acteur dans leurs films, et très souvent chez Godard en particulier. Pourquoi, selon vous, cette affinité avec le cinéma et la personnalité de ces deux-là ?
Je pense que... Je sais pas, c'est peut-être des... Il faudrait... Dans la biographie, mais on, bon, Au niveau biographique, j'en sais rien, comment ils se sont plutôt entendus avec... Pourquoi Balabart s'est plutôt entendu avec Godard et Rivette qu'avec Truffaut et Chabrol. Bon, mais encore que Chabrol, il adorait. Bon, mais il a écrit sur Chabrol, sur Les Bonnes Femmes. Bon, moi, je pense que Godard, c'était quelqu'un qui était dans l'invention permanente dans jusqu'à aujourd'hui encore. Voilà. Et ça fascinait Labarthe. Et Rivette, c'était... ses inventions se voient pas, mais lui, il les voyait. Voilà, Labarthe. Et je pense que dans leur dialogue, ils s'entendaient très très bien, et c'est pour ça qu'ils ont... Ils ont travaillé ensemble, et surtout à l'amour fou, quoi. Quand il y a deux caméras, il y a celle de Labarthe et celle de Rivette, quoi. Donc, je pense qu'il y avait une sorte de... Là, de complicité encore plus grande qu'avec Godard.
Labarthe a-t-il été atteint, ce qui ne semble pas flagrant, par les idées politiques radicales, révolutionnaires qui ont marqué la fin des années 60 et les années 70?
Oh, je ne pense pas qu'il était maoïste, mais il était de gauche, extrême gauche. Bon, quand il fait le film avec Comolli sur les deux Marseillaises, bon, c'est nettement un film de gauche où l'engagement... Ne c'est pas de prendre parti pour tel candidat contre Chalandon, mais c'est quand même de ridiculiser la droite, quoi. Après 68, c'est la première élection après le mouvement de 68, et c'est un ancien ministre de De Gaulle, Albin Chalandon, qui est là face à des... Je sais plus qui c'est à gauche et tout ça. Mais à l'époque, j'étais au PSU et j'ai retrouvé mon article et je reproche dans mon article au fait qu'ils ont un peu minoré le candidat du PSU. Bon. Mais c'était... Ah non, mais en face dans ce film, voilà pourquoi ils ont fait le film. Ils ont fait le film aussi pour se moquer de Roger Hanin, qui était le candidat de la gauche unie. FGDS, face à Albin Chalandon. Donc, il y avait un ministre. Et puis, en plus, il y a une scène de la campagne électorale qui se déroule dans la piscine où Godard a tourné une partie d'Alphaville. Voilà. Donc, tout ça, il y a du cinéma qui revient. Donc, il prenait parti grâce à des citations de la scène d'Alphaville où il y a des gens qui se font descendre, là, comme ça, voilà, bon, qui se font descendre au bord de la piscine.
Tout au long de son parcours, que diriez-vous de la manière dont Labarthe a accompagné le cinéma, Jean-Paul Fargier?
Alors, il a accompagné le cinéma avec une sorte de vision historique et de vision de la modernité en train de se faire. Voilà, donc il avait une grande connaissance de l'histoire du cinéma et d'une histoire qui n'était pas encore établie, quoi, puisqu'il a contribué à faire l'histoire du cinéma grâce à cinéastes de notre temps, parce que, bon, ils n'allaient pas forcément interviewer les gens les plus connus. Bon, il a même découvert comme ça Cassavetes et après, donc, modernité, et donc c'était un détecteur de modernité et il savait nommer en quoi une forme était nouvelle et prometteuse.
N'est-ce pas de gens comme Labarthe dont on manque, ce genre d'interface critique, passeur pour le cinéma, mais plus largement pour les arts, les idées, des gens abordables, potentiellement populaires, disons, mais exigeants à tous les étages où ils exercent, comme l'avait été Bazin et avait pu l'être encore Danet?
Oui, bah ça c'est sûr. Bazin, Danet, Labarthe, voilà. La Trinité qu'on cite tout le temps et qu'on a toujours plaisir à relire. Bon, est-ce que ça manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui... Je sais pas, bon, bah peut-être que... Bon, moi je lis... C'est vrai, j'ai été dans beaucoup de revues de cinéma et je n'en lis plus. Bon, j'ai acheté Le Monde aujourd'hui parce que... Pour voir des articles sur le cinéma, puisque on est en plein Festival de Cannes et il y a toujours des articles. Je pense que aussi, aujourd'hui, la critique de cinéma aujourd'hui, moi, j'irai la chercher dans des romans. Par exemple, les romans de Yannick Enel, quelqu'un qui sait décrire les films, ça vaut une critique, parce que ça peut prendre 30 pages, ou quand il décrit un passage de Shoah, et alors là, on voit des tas de choses. Et dans Tiens ferme ta couronne, quand il décrit un film de Cimino ou un film de Coppola, c'est mieux qu'une critique, voilà. Mais j'aime bien aussi le genre critique, le petit papier de 2-3 feuillets où on arrive à pointer. Bon, c'est pour ça, il y a quelques plumes encore que j'aime bien lire.
Mais le présent du cinéma est-il encore propice à ce genre de personnages, des Bazins, des Danais, des Labarthe, ou est-ce qu'on est définitivement passé à autre chose ?
Ah non, moi je crois que le cinéma aujourd'hui, il y a des inventions formidables. Tout le temps, il y a des films intéressants qui sortent. Voilà. Bon. Mais donc, il faut arriver à pointer cette nouveauté. Mais il y a plus de polémique comme il y a eu à cette époque. Il y a la polémique, les cahiers positifs, les cahiers du cinéma cinétique, etc. C'était très générateur de concepts qui permettaient. Les concepts, c'est fait pour voir. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je ne dis pas assez, je ne peux pas le dire, mais je pense qu'il y a peut-être des nouveaux critiques qui sont en train là, de travailler.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui plutôt d'un côté le tout venant qui accompagne la critique, qui accompagne la vie des films au fil de leur sortie, et de l'autre des critiques plus savantes et parfois hermétiques ? Est-ce que il n'y a pas une frontière plus nette justement, et peut-être trop nette ?
Bon, je sais pas. Je suis pas. Je passe pas mon temps. Je fais des films. J'écris des textes un peu compliqués pour des revues hein, comme Trafic. J'écris plus dans des revues qui font de la critique. Voilà. Par contre, j'écris sur l'art vidéo. Et il y a aussi, je me suis donné cette mission que Dané m'avait donnée en me disant, puisque tu fais de la vidéo, écris sur la vidéo. Et je continue à observer les jeunes créateurs d'art vidéo, et dans une revue en ligne, j'envoie des petites analyses comme ça. Voilà.
Jean-Paul Fargier, merci. Nous nous retrouverons dans 3 heures, après avoir écouté Le Bon Plaisir d'Andréas Labarthe par Sophie Barouillet en 1994, et nous rejoindra pour la deuxième partie de notre entretien la réalisatrice Estelle Fredet. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.